Bouchard en parle est présenté par Matelas Dauphin qui fête son 49e anniversaire. Des économies sur tous les matelas, plus payés en 36 versements où il paye les deux taxes pour un temps limité dans tous les matelas Dauphin.
7h37, il y a une personne à qui on a pensé que ce serait intéressant de parler dans le cas de cette fillette qui est décédée à Granby. On blâme beaucoup la DPJ depuis le début de cette histoire-là. Et il y a quelqu'un qui a fait un documentaire en 2005 pour dénoncer certaines pratiques de la DPJ et c'est Paul Arcand. Le documentaire s'appelait « Les voleurs d'enfance ». Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce documentaire-là avait été très bien reçu auprès des élus et de la population. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Ce que je ne savais pas et ce que M. Arcand va nous expliquer dans l'entrevue qu'on va présenter, c'est que ça a été reçu de manière très, très hostile par les principaux intéressés qui sont la DPJ. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de lui parler parce que 13 ans, en fait plus de 13 ans après la sortie de ce documentaire-là, est-ce que Paul Arcand pense que certaines choses ont changé ou se sont améliorées auprès de la DPJ? Et c'est la première chose que je lui ai posée comme question. Au moment où le documentaire est sorti, est-ce que vous avez senti que le vent était en train de tourner, que ce documentaire-là, étant donné que ça avait été très bien reçu par les élus, par la population, pourrait être ce qui ferait la différence et qui ferait opérer certains changements chez la DPJ?
Ben, je vous dirais d'abord que ça a été reçu de façon assez hostile par la DPJ en partant. C'est vrai que je pense que la population, les élus, avaient en tout cas accueilli assez bien le documentaire, mais c'est un documentaire qui pointait des pratiques de la DPJ. Puis des pratiques qui étaient différentes à l'époque de ce qu'elles sont maintenant. Et si je résume en un mot, à l'époque, il y avait quelques enjeux importants, notamment le fait qu'on trimballait les enfants, des enfants qui se trouvaient en famille d'accueil pouvaient faire 4, 5, 6, 7 familles, ce qui, évidemment, n'avait aucun sens. Il y avait aussi cette espèce de volonté de toujours maintenir des liens avec les parents biologiques dans des circonstances qui étaient absolument délirantes dans bien des cas. Bref, il y avait des problématiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Un peu, et pas tant que ça. Si je parle strictement de la protection de la jeunesse, là où ça a changé, il y a d'abord toutes les réformes de structures qui ont été faites et l'espèce de mentalité comptable qui a été implantée avec la difficulté de recruter du personnel, avec des augmentations de signalement, comme on a vu, des listes d'attente de 3000 enfants, ce qui n'a pas de sens. Alors, est-ce que à chaque fois qu'il y a un événement tragique, ça peut permettre de bousculer les choses puis faire qu'il y a des changements? On le souhaite. Mais il y a une réalité qui est pas mal plus complexe que ça, je pense.
Bon, vous avez compris que ce qui a principalement changé depuis les voleurs d'enfants, c'est qu'à l'époque, ce qui avait été dénoncé principalement dans ce documentaire-là, évidemment, il y avait eu plein de cas qui avaient été rapportés, puis c'était des cas épouvantables, mais principalement, c'était le fait qu'on trimballait les enfants d'une famille d'accueil à l'autre. Il n'y avait pas de ligne directrice à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Est-ce qu'on essaye de les garder dans leur milieu familial principal de façon prioritaire ou non? Et c'était pas ça qui était préconisé à l'époque, ce qui faisait en sorte que les enfants bougeaient d'une famille d'accueil à l'autre. Et là, c'est facile de dire pourquoi ils font pas juste rester avec une famille d'accueil avec qui ça se passe bien pendant 5, 10, 15 ans. Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est pas facile d'être famille d'accueil. C'est vraiment pas facile. Tu te ramasses avec des enfants souvent qui ont un passé qui est assez lourd, des enfants qui peuvent être poqués. Oui. Et des fois, c'est les familles d'accueil qui décident de tirer à plat.
C'est vraiment des anges, là. C'est des enfants qui ont eu des problèmes qui sont pas nécessairement causés par eux-mêmes.
Exact.
Mais ils sont des enfants problèmes.
Voilà. Alors, devant cette réalité-là, ben, il y a des familles d'accueil qui décidaient d'abandonner le bateau puis qui appelaient à la DPJ puis qui disaient ça ne fonctionne pas avec cet enfant-là. Alors, l'enfant était promené dans une autre famille d'accueil où la même situation pouvait se produire. Alors, c'est pour ça que deux ans après la sortie du documentaire de Paul Arcand, ça a donné que le gouvernement Charest est arrivé au pouvoir. Ils ont fait adopter la fameuse loi qui est un petit peu critiquée présentement, qui dit qu'on va essayer par tous les moyens possibles de conserver l'enfant dans son milieu familial, que ça va toujours bien être mieux que le promener en 10 familles d'accueil en dedans de 3 ans. Alors, c'était le commentaire de Paul Arcand par rapport à ça. Ensuite, vous savez qu'ici, au FM 93, on a fait une entrevue qui a été très poignante avec Guillaume, qui est le fils du bourreau de Beaumont. Oui. Le bourreau de Beaumont, c'est un cas qui a été amplement médiatisé. Paul Arcand, lui, a été très proche de son côté de Patrick, qui était l'autre fils du bourreau de Beaumont. Alors, c'est un cas qui l'a suivi beaucoup, puis c'est un cas qui a été détaillé beaucoup dans le documentaire Les voleurs d'enfance. Et je lui ai posé comme question, quand l'histoire du bourreau de Beaumont est sortie, à l'époque, on l'avait qualifié du pire dérapage de la DPJ au Québec, dans l'histoire du Québec au complet. La DPJ avait été fortement critiquée, avec raison, dans ce dossier-là. Et je disais, M. Arcand, vous trouvez pas ça un petit peu surprenant qu'une situation comme ça arrive aujourd'hui, en 2019, alors que la DPJ est supposée avoir appris de ses erreurs, d'avoir abandonné des enfants comme ça aux mains de parents qui étaient complètement irresponsables à l'époque du bourreau de Beaumont?
Ben, dans le cas du bourreau de Beaumont, d'abord, c'était des abus physiques et à répétition. Et une des stratégies du bourreau lui-même, c'était de déménager à plusieurs reprises. Et c'est comme ça qu'il réussissait à sonner la DPJ, c'est-à-dire qu'il changeait de secteur et on perdait sa trace. Je mets un bémol quand je dis ça, là, mais et on sait qu'il y a une poursuite, qu'il y a un règlement hors cours, que Patrick, là, la victime, a pu avoir une certaine compensation financière. Mais c'est vrai que c'est un dossier que la DPJ a échappé. Vous savez, quand vous êtes un enfant ou un adolescent, puis que l'été fait très chaud, puis que vous portez un chandail à manches longues, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, j'ai rencontré à ce moment-là des profs qui l'avaient eu, et tout le monde trouvait que c'était un enfant qui visiblement avait des problèmes, qui avait un milieu familial tout croche. Mais on changeait d'école, on changeait de ville, on changeait de secteur, et on réussit à semer, en guillemets, la DPJ. Dans le cas de Granby, fort différent, dans la mesure où là, on a deux enfants qui, dès leur naissance, sont pris en charge par la DPJ, sont sous la responsabilité. Pourquoi? Parce que les parents sont deux irresponsables. Il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de consommation d'alcool. Et je regardais le jugement qui a été rendu, parce qu'il faut comprendre que la petite fille a été placée chez la grand-mère paternelle. Dès le départ, ça a duré un peu plus de 3 ans. Et à un moment donné, le père dit s'avoir pris en main, a une nouvelle compagne dans sa vie, veut avoir des enfants. La mère n'est pas dans le décor, presque pas, en tout cas, quelques visites supervisées. Et là, je pense que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une volonté de laisser des enfants dans le milieu de biologique, si on veut, avec un des parents naturels à tout le moins. C'est probablement ce qu'il y a de mieux, dans la mesure où les parents sont responsables, puis dans la mesure où on est capable de leur fournir des services. Et moi, ce qui me trouble le plus dans cette histoire-là, c'est de voir que, dès le départ, on savait qu'on était dans un milieu familial trouble, et je peux vous dire que c'est un milieu familial perturbé de façon élargie, c'est pas que les parents, et qu'on a fait des interventions. Mais quand vous lisez le jugement qui confie la garde au père et un certain droit à la mère, ça se peut pas, là. L'enfer que cette petite fille-là a vécu. Et on décrit ça avec détail. C'était un enfant qui était perturbé. C'était un enfant qui, évidemment, avait peur dans le milieu du milieu dans lequel elle se trouvait. C'était un enfant, en dit le père, où le pédiatre est allé recourir au médecin, est allé recommander parce qu'elle faisait des chutes. Puis on peut se demander pourquoi, à 7 ans, 6 ans, tu essaies de faire des chutes comme ça, de l'enfermer dans sa chambre puis de part à la porte. Pas certain que le médecin ait dit ça comme ça, mais ce sont les faits allégués devant le juge. Et c'est un enfant qui était agressif, c'est un enfant qui avait des problèmes de comportement à l'école, c'est un enfant qui pleurait, c'est un enfant qui a perdu du poids, qui mangeait pas. Et là, vous me dites que c'est un enfant qui est surveillé par la DPJ, qu'on voit dépérir de cette façon-là, et il n'y a pas d'autre intervention que je remets l'enfant à son père. Et je rappelle que la conjointe du père a déjà été arrêtée pour avoir frappé la petite. Alors, imaginez un enfant là qui vit chez sa grand-mère, qu'on déracine, qui voit pas sa mère, se retrouve avec deux irresponsables qui prennent de l'alcool, puis qui ont toutes sortes de problèmes, qui se battent devant les enfants. La police est intervenue à plusieurs reprises. Ça, là, c'est là où la DPJ a échoué davantage. C'est là où l'erreur, à mon point de vue, majeure a été commise. On peut pas tout prévoir, on peut pas tout savoir, parce que la DPJ est souvent utilisée par des couples qui se séparent, qui ont peur des allégations contre un des conjoints, l'aliénation parentale. Mais dans ce cas-là, c'est un cas qui était suivi depuis la naissance de la petite. Et on a vu cet enfant-là dépérir et on n'a pas posé les gestes adéquats pour l'empêcher de se morfondre dans cette maison-là puis de subir des sévices psychologiques, physiques, puis on connaît malheureusement le dénouement.
Oui, ça c'est un point, je pense, qui est aggravant là-dedans. C'est le fait qu'elle est décédée à l'âge de 7 ans et la DPJ était dans la vie de cette petite fille-là depuis ses premières heures de vie. Là.
Oui.
Alors, 7 ans de signalement, 7 ans de mauvais traitement, de sévices, et la DPJ n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions pour la protéger. Et la prochaine question que j'ai posée à M. Arcand, là, je sais que c'est beaucoup les réactions qu'on a au 25-226 depuis ce matin. Il y en a qui nous reprochent beaucoup de blâmer la DPJ là-dedans parce qu'au bout de la ligne, c'est un juge qui prend la décision. Vous avez raison. La DPJ va faire des recommandations, va monter une enquête et ensuite, ils vont se présenter devant un juge avec une recommandation. Des fois, le juge va prendre la recommandation de la DPJ. Des fois, il ne va pas prendre la recommandation de la DPJ. Alors, j'ai demandé à M. Arcand, quand on blâme la DPJ, les gens nous reprochent de ne pas parler suffisamment des juges et du système judiciaire. Est-ce que vous trouvez qu'on blâme les mauvaises personnes, finalement?
Mais c'est-à-dire qu'on peut blâmer le système, on peut blâmer jusqu'au ministre. C'est-à-dire que le jour où vous implantez des systèmes de quotas, comme ça a été démontré dans le reportage de Katia Gagnon dans la presse, dans la mesure où, et on va se le dire franchement, là, il y a peu de gens qui veulent travailler à la DPJ. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est humainement difficile. On est confronté à des cas de détresse, à la misère humaine, à des enfants qui sont dans des milieux extrêmement difficiles. Premièrement. Deuxièmement, quand vous dites on recrute pas de gens, moi j'avais un cas ce matin, c'est une équipe de 18 intervenants, il y en a 4 qui ont quitté de façon permanente ou temporaire. Il n'y a personne pour les remplacer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on transfère les dossiers, ce qui fait qu'un ou une intervenante doit gérer une multitude de dossiers complexes. Elle n'a pas le temps et il y a une espèce de pression pour fermer les dossiers, pour donner un tableau intéressant de rendement. Alors, moi, je blâme pas toujours les intervenants de première ligne. Au contraire, ils sont devant une réalité, un portrait, ce qui prenait l'expression, je pense, une espèce de soins intensifs de la nature humaine. Et ils ont peu de moyens. Même si vous êtes un intervenant et vous recommandez qu'il y ait un suivi plus régulier, ben le suivi n'existera pas. Et c'est pas parce qu'on fait des recommandations aux parents que les parents vont les suivre. Maintenant, pour ce qui est des juges, les juges vont regarder la preuve. Et là, les juges vont tenter de voir, en partant d'idée que c'est lui que l'enfant reste dans le milieu. Mais sincèrement, moi, je dis, vu le jugement concernant la petite fille de l'OMB, j'ai de la misère à comprendre la logique de la juge dans le dossier, là, d'avoir pris cette décision-là, parce que la conclusion, c'est, on pense que c'est ça qui est mieux, mais pour que ce soit mieux, ben, on va contrôler les visites de la mère, on va s'assurer que le père a du soutien, il va y avoir de la surveillance et tout ça, évidemment, c'est la responsabilité du DPJ. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Et moi, j'ai vu souvent des cas où le juge émettait des ordonnances. J'ai pas besoin de remontrer à André Ruffaut là, pour ça, mais les ordonnances étaient claires sur les services à donner aux enfants et les services n'étaient pas donnés parce qu'on n'avait pas la ressource, parce qu'on était dans la bureaucratie. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que c'est pas... Quand on blâme la DPJ, on blâme la protection de la jeunesse, au sens large. Est-ce que les policiers font assez de signalements? Quand vous êtes des policiers, puis que ça fait 4-5 fois que vous êtes dans une maison où ça se bagarre, puis finalement ça se ramasse devant le tribunal, puis vous constatez l'état des enfants, en faites-vous des signalements? Je ne sais pas, à Québec, moi, ce qu'on me dit au SPVM, il n'y en a pas tant que ça de signalements faits par les policiers. Dans le cas qui nous intéresse, le milieu scolaire aussi a fait des signalements. Ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une enquête qui va le démontrer. Mais combien de gens m'ont dit, par exemple, que j'ai un contact avec une famille d'accueil qui a reçu des enfants pendant des années. Et il y a quelques années, c'était deux heures et demie avec les parents. Disant, voici le cas de l'enfant, voici les problèmes potentiels, voici les ressources qu'on a. Une rencontre qui durait 2 heures. Maintenant, faute de temps, parce qu'ils ont trop d'enfants à s'occuper, ben, on va passer une demi-heure, puis on éteint les feux. C'est ça qui arrive.
Et la question qui a été posée à la fin de l'extrait, elle est très bonne. Vous avez compris qu'on a appris que du côté Montréal, au SPVM, au service de police de la ville de Montréal, lorsqu'ils se présentent dans un appartement où il y a visiblement des enfants et ils se présentent pour un cas de violence conjugale ou un cas où les voisins ont entendu des cris, bon, évidemment, ça semble être un milieu dysfonctionnel. Là, quand tu te présentes plusieurs fois à la même adresse puis les parents se battent ou se crient après, ils devraient normalement faire un signalement à la DPJ. Mais ce que M. Arcand a appris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de signalements à la DPJ qui sont faits par le service de police de la ville de Montréal. Ça devrait être plus que ça. Ça devrait faire partie du travail des policiers. Et ma question, parce que je n'ai pas la réponse, si jamais vous êtes au service de police de la ville de Québec et vous avez la réponse, est-ce que vous faites des signalements à les policiers?
On pourrait leur
DPJ?
Demander le nombre de signalements dans les dernières années du SPVQ, puis on pourrait faire corroborer ça avec les statistiques du DPJ, parce qu'à chaque année, le DPJ sort le nombre d'interventions du DPJ. Fait qu'on pourrait établir une corrélation entre le nombre de signalements qui viennent de la police de Québec et le nombre de cas qui ont été répertoriés au DPJ.
Oui, ce serait intéressant parce qu'à Montréal, ça semble être un problème. Il n'y en a pas beaucoup qui sont faits par le SPVM. Alors, on va essayer de fouiller ça. On va aller poser des questions au SPVQ. Si vous faites partie du SPVQ et vous avez quelque chose à dire là-dessus, ben, écrivez-nous 25226. Et la prochaine question, elle est assez importante. Il y a plus de 13 ans, quand Paul Arcand a fait son documentaire, il a évidemment parlé à plusieurs intervenants qui travaillent à l'intérieur de la DPJ. Et tous les journalistes au Québec présentement vivent un petit peu la même situation. On reçoit des messages d'intervenants ou de d'employés de la DPJ. Et le message commence toujours par la même phrase. Je veux garder l'anonymat. Mmh. Ça commence toujours par ça. Il y a une peur à l'intérieur de la DPJ de se faire prendre à parler au monde. Et c'était le cas au moment où Paul Arcand a fait le documentaire en 2005. Et j'ai demandé à Paul Arcand, quand vous parlez en fait à des gens aujourd'hui, quand vous recevez des messages et des courriels, est-ce que c'est la même peur que c'était il y a 13 ans ou ça a changé à ce niveau-là?
C'est-à-dire, la crainte de parler est toujours la même, là. Ça, c'est clair, là. Les gens, encore aujourd'hui, depuis hier, qui m'écrivent et qui sont dans le réseau, précisent plus d'une fois, là, et insistent pour que je respecte l'anonymat, la confidentialité, parce qu'ils veulent pas perdre leur job. Et ça, c'est vrai qu'il y a, cette espèce de régime de silence, d'omerta qui est présent, qui était présent aussi à l'époque. Mais c'est encore vrai aujourd'hui parce qu'il faut protéger l'institution. Puis je vais vous donner juste un cas terrible qui est arrivé il y a 10 ans. C'est un enfant qui... c'est un divorce. Et le mari, l'ex-conjoint, est quelqu'un de très violent. On menaçait la mère et finit par obtenir des droits de visite pour sa petite fille. La DPJ est dans le dossier. La DPJ recommande au père d'aller suivre des cours pour mieux gérer sa colère. Et puis, un samedi, il vient chercher sa petite fille. Étonnamment, il est hyper tranquille, contrairement aux autres fois. Il n'y a pas de mots agressifs, il n'y a pas d'attitude violente. Part avec la petite, s'en va sur le boulevard Tachon, sur la rue sud de Montréal, dans un hôtel, le Best Western, et tue sa fille et se suicide. C'est arrivé le week-end. Le réflexe de la DPJ, c'est de prendre contact avec la mère le lundi pour s'assurer qu'elle parle pas aux médias. Ils étaient plus préoccupés de leur réputation dans ce dossier-là qu'autre chose. Ça montre à quel point, je pense que ils ont plus intérêt à se protéger et protéger l'institution qu'à répondre aux questions.
Ça me met en beau fusil, ouais, ce genre de réaction-là. Là.
Ouais. On a eu un message à cet effet-là hier, puis je nommerai pas le cas, parce que c'est un seul message qu'on a eu, mais je vais dire quand même, une situation, une histoire un petit peu semblable à ça qui s'est passé ici à Québec, dans les dernières années. Alors, on parle d'un enfant qui a subi des mauvais sévices de ses parents, et ce qu'on nous a dit dans ce message-là hier, c'est que après cette histoire-là, évidemment, les médias en avaient parlé, puis avec raison, c'était un cas où la DPJ était aussi impliquée dans ce dossier-là. Et ce qu'on nous a dit, c'est que peu de temps après que l'histoire soit sortie publiquement dans les médias, tous les gens qui avaient été impliqués de près ou de loin avec cet enfant-là ont été rencontrés par la DPJ. Pas pour faire une enquête sur les mauvais traitements que l'enfant avait subis, pour savoir qui avait parlé aux médias. Leur préoccupation.
Les chasses aux sorcières. Hein?
La chasse aux sorcières.
Ouais. C'était plus important, ça.
C'était plus important de savoir c'est qui dans l'entourage de l'enfant qui a coulé l'affaire aux médias, puis qui a coulé des détails, puis qui nous a fait mal pareil.
Est-ce que ces gens-là, puis là, je parle pas des intervenants, parce que c'est pas les intervenants, on s'entend qu'ils vont faire la chasse aux sorcières. Là. C'est les cadres de DPJ, c'est les gens qui sont dans les hautes sphères de DPJ. Est-ce que ces gens-là ont un cœur? Parce que moi, les intervenants, j'ai aucun doute que les intervenants ont un cœur puis sont là pour les bonnes raisons. Les cadres, par exemple, là. Puis tu sais, on a eu avec Alexis hier les cadres de CPE qui se farcissent au cocktail au centre des congrès pendant que les éducatrices peinent à avoir des ratios puis des spécialistes pour aider les enfants avec des troubles d'apprentissage. Là. Les cadres, là, j'ai bien de la misère avec leur motivation. Êtes-vous là pour le pouvoir ou êtes-vous là pour les gens que vous servez?
Et la dernière question que j'ai posée à Paul Arcand, c'est là, on a appris qu'il y a à peu près 3-4-5 enquêtes différentes qui ont été lancées avec ça. Bien sûr, il y a les enquêtes normales, l'enquête criminelle par la police, il y a l'enquête du coroner, mais il y a aussi des enquêtes à l'intérieur même de la DPJ pour savoir s'il y a eu des manquements à gauche puis à droite. J'ai demandé à M. Arcand, est-ce que toutes les enquêtes qui vont être faites sont la solution ou il faut quelque chose de plus gros que ça?
C'est-à-dire que, bon, il y a des enquêtes qui sont obligatoires, là, l'enquête policière, l'enquête du coroner, ça, c'est certain. Je crois pas aux enquêtes administratives, personnellement. Je sais qu'ils vont remettre un rapport dans les 60 jours. Moi, je suis celui qui, depuis hier, dit que ça prend une enquête indépendante, donc des gens qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas d'attache avec le réseau et qui ont le pouvoir de convoquer qui ils veulent puis d'avoir accès aux documents qui sont nécessaires. Mais de ce que j'ai compris ce matin, c'est que cette enquête-là du coroner va se passer après toutes les étapes devant les tribunaux. Ce qui fait qu'on n'aura pas, si vous voulez, le portrait, à mon point de vue, le portrait réel, juste avant quand même un bon bout de temps.
Alors, c'est probablement pas suffisant pour ça, pour qu'il y ait vraiment une réforme globale de la DPJ.
Ça va prendre quoi?
Ça va prendre quoi? Je ne sais pas.
Une réforme globale? Encore un beau terme sur réforme globale. Qu'est-ce que ça va prendre? Je veux dire, des fois, on dit ça va prendre un mort avant que ça change. Mais là, il y en a un.
Ah non, il y en a plus qu'un, plus qu'un.
Pas le premier.
C'est Lise. C'est oui, je pense que c'est Lise Ravary dans sa chronique hier. Elle a fait une nomenclature de tous les enfants.
Une recension,
qui sont un recensement de tous les enfants qui sont décédés au Québec, qui étaient qui devaient être sous la protection de la DPJ. Malheureusement, la petite fille de Granby, c'est pas la première. Mm-hmm. C'est pas la première, mais il faut que ce soit la dernière. Ça, c'est important.
Tu sais, les protecteurs sont supposés surveiller les gens les plus démunis, les gens les plus vulnérables. Mais qui surveille les protecteurs? Je pense qu'on est rendu là. À quelque part, si la direction de la protection de la jeunesse, puis je sais que c'est hyper suranné là, comme comparaison, comme phrase, mais si la direction de la protection de la jeunesse n'est pas capable de protéger la jeunesse, excuse-moi, mais il faut les surveiller. Il faut les surveiller, il faut les mettre sous tutelle, puis il faut les prendre par la main. Parce que visiblement, en haut de la pyramide, il y en a qui n'ont aucune idée comment s'occuper des enfants.
On a certaines réponses à une question qu'on se posait un petit peu plus tôt. Paul Arcand racontait qu'au SPVM à Montréal, au service de police de la ville de Montréal, il ne semble pas y avoir beaucoup de signalements qui sont faits à la DPJ. Puis pourtant, ça devrait, parce que les policiers, ce sont les premiers arrivés dans une situation où il y a un appel au 911. Si un voisin appelle parce que ça crie dans le logement à côté puis il y a des enfants impliqués, ben ils arrivent sur place et ils peuvent voir l'état des lieux. Mmh. Ils peuvent voir si ça semble être des parents responsables ou non. S'ils arrivent pour un cas de violence conjugale, puis un enfant qui a tout vu ça. Moi, je pense que c'est le devoir des policiers de faire des signalements. Au SPVM, ça semble pas être le cas. En tout cas, il y en a pas beaucoup qui sont faits. On a posé la question s'il y a des policiers qui nous écoutent ce matin. On a quelques textos 25226. Quelqu'un nous dit, je suis policier au SPVQ. On fait régulièrement des signalements à la DPJ et on travaille très souvent avec eux. Des fois, ils demandent notre assistance. D'autres fois, c'est nous qui demandons leur assistance. Et tout de suite après, quelqu'un nous dit, policière depuis 17 ans à Québec. Plusieurs signalements sont faits à chaque année à la DPJ et aucun des signalements que j'ai personnellement fait ont été retenus. Et impossible d'avoir un retour malgré le fait qu'on demande un retour.
Aucun.
Puis ça veut dire que c'est une policière qui a le cœur sur la main parce qu'elle fait même des suivis après. Le signalement que je vous ai fait sur telle personne dans tel logement avec tel enfant, on en est où? Pas de retour. Pas de retour et aucun des signalements qu'elle a fait n'a été retenu.
En combien d'années, tu dis?
Elle est policière depuis 17 ans à Québec.
Imagine, là, sur une période de temps, disons, en faire plus que 3-4. Ouais.
Alors, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus...
Oh, bonne question, 25226.
Oui, vas-y.
C'est intéressant, ça. Les intervenants de première ligne de la DPJ, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir fait technique policière? On parle de travail émotivement difficile. Les travailleurs sociaux ne sont souvent pas outillés pour ça. Est-ce qu'un autre type d'intervenant... C'est quoi la formation exactement? C'est une bonne question, ça. Je ne le sais pas. Un intervenant
de première
ligne...
Je pense que
c'est travail social.
Ben, je pense que ce sont des travailleurs sociaux. Vous pouvez nous corriger au 25226, mais il me semble que oui, les intervenants...
Parce que quand tu es travailleur social, mettons que tu fais ton cours à l'université, c'est un baccalauréat, je pense, travail social.
Oui, un bac en travail social.
Il y a des techniques aussi, je pense. Mais, tu as des bacs en travail social. Est-ce que tu vas aussi loin dans l'horreur?
C'est pas assez large, le travail
c'est
social.
Ça, hein?
Tu peux travailler dans toutes sortes de milieux et puis c'est pas toujours des milieux difficiles comme ça. Là,
mais Henri Lafrance, le président de l'Association des grands-parents du Québec à qui j'ai parlé hier, me disait qu'il ne comprend pas, lui, pourquoi est-ce que les gens qui travaillent à la DPJ ne font pas partie de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec.
Ah, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant.
Ils sont pas dans l'ordre. Pourquoi. Ça, c'est une autre bonne question.
C'est technique d'intervention en délinquance au cégep. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ce serait possiblement pas des, ce serait possiblement pas des travailleurs sociaux qui ont fait un bac là-dedans. Alors, c'est peut-être pour ça que ça prendrait plus que ça. Mais encore là, moi, c'est pas les intervenants que je vais blâmer, hein. C'est pas les intervenants de première ligne nécessairement que je vais blâmer dans des situations comme ceux-là. Il y en a plusieurs qui ont levé la main depuis 48 heures pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Hey, t'as des intervenants qui ont 20 dossiers à eux tout seuls, qui doivent tous travailler en dedans de délais très courts, genre 30 jours.
Tu ne peux pas réussir ça.
C'est pas arrivé. C'est peut-être pour ça.
On a des petites corrections. Il y en a qui disent qu'on doit être membre d'un ordre professionnel, mais que c'est très varié. Il y aurait des travailleurs sociaux, des criminologues, des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés. Oui.
Mais il doit y avoir différents niveaux d'intervenants aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Puis différents niveaux de compétences. Mais je ne sais pas à quel point. Puis les formations, je ne les connais pas. Je n'ai jamais fait ça, ces formations-là. Mais quand vous faites une technique d'intervention en délai, ou en criminologie, ou est-ce que vous restez dans la théorie ou vous allez sur le terrain?
Ben, ils ont des stages. Oui, ils ont des stages.
Mais est-ce que c'est des stages qui te préparent à faire face à une horreur semblable comme
est-ce
celle qui se passe
à préparer?
Quelqu'un nous dit, c'est pas 20 dossiers, c'est 40 dossiers que tu peux avoir par intervenant. Imagine, c'est encore pire que ce que j'avais lu dans les derniers jours. Si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, 25226, il est 8h, presque 2.
Les actualités vous sont présentées par IRM Québec. Vous devez passer une résonance magnétique? Choisissez IRM Québec, la force magnétique. Rendez-vous et résultats rapides. IRMQuébec.com. FM
93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Élisabeth Crête.
8h02, on va aller faire un tour dans le trafic avec Bez.
Oui, ça va bien dans le trafic. Sur la rive sud, pour accéder aux deux ponts, là, ça circule librement, aucun ralentissement. Sur la rive nord, Henri IV sud, évidemment, en raison du chantier, ça rebloque. Un peu après Sainte-Geneviève jusqu'à Einstein ou Charest. Là. Et sur Charest, direction est de Duplessis à Robert Bourassa, c'est soit au ralenti, soit achalandé, donc rien de majeur. Et Laurentienne-Sud, oui, l'accès à Capitale-Ouest, il y a un petit ralentissement parce que sur Capitale-Ouest, il y a un ralentissement à la hauteur de Laurentienne.
La circulation, présentée par Paquette Nissan à Lévis. Se faire servir avec le sourire, amicalement, sans pression, autant avant qu'après l'achat. Chez Paquette Nissan, on est de service.
On en parlait, mais le gouvernement caquiste a annoncé hier une enquête publique du coroner à la suite de la mort tragique de cette fillette de 7 ans qui est décédée du côté de Grimby suite à qui a été victime de sévices. La commission scolaire a également admis hier qu'elle était au courant de la situation familiale difficile de la fillette. Et lors de leur retour en cours, le couple, donc le père et la belle-mère, soupçonnés d'avoir causé la mort de la fillette, n'ont vu aucune accusation supplémentaire être déposée contre eux. Le DPCP attend les conclusions de l'enquête policière. Le rapport de la Commission des droits de la personne sur la mort de la petite Rosalie Gagnon pourrait ne pas être rendu public. La Commission des droits de la personne justifie sa décision en expliquant qu'on veut protéger l'identité de l'enfant. Elle indique au FM 93 que les recommandations seront dévoilées et je cite, « si c'est dans l'intérêt de l'enfant ». La petite Rosalie est morte dans d'atroces circonstances en avril 2018. Son corps avait été retrouvé dans un bac à ordures. Sa mère, Audrey Gagnon, fait actuellement face à des accusations de meurtre au second degré. L'acteur Peter Mayhew est le premier à personnifier Chewbacca dans Star Wars et est mort mardi à l'âge de 74 ans. Les causes de son décès survenu à sa résidence au Texas n'ont pas été précisées. Il s'était résigné à abandonner le rôle de sa vie après avoir été frappé par la maladie.
Deux matchs Ligue nationale hier, victoire de Boston 4-1 sur Columbus sur deux buts de Patrice Bergeron. Colorado a blanchi San Jose 3-0, donc ces deux séries-là sont à égalité à deux victoires de chaque côté. Ce soir, il y a deux autres matchs. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté le premier match de la finale de la Ligue junior majeure du Québec 5-2 contre Halifax. Et quatre joueurs du Rouge et Or ont été repêchés hier dans la séance de sélection de la Ligue canadienne de football. Mathieu Betts est sorti troisième au total en première ronde par Edmonton. Vincent Desjardins et Samuel Thomasin tard en deuxième ronde respectivement par Calgary et Montréal et Clément Lebreu en huitième ronde par Ottawa.
Oh, à la météo, vous connaissez l'expression « le 3 fait le mois », on va souhaiter que ce soit pas vrai parce que c'est pas très beau aujourd'hui. Pluie intermittente, maximum de 7 degrés. En fin de semaine, par contre, beau week-end qui est prévu, maximum de 13 demain, généralement nuageux. Dimanche, c'est la plus belle journée, alternant de soleil et nuages, mais plus de soleil que de nuages, maximum de 15 qui est prévu. On a gagné un gros degré à Québec, c'est 4.
La météo présentée par forceoccasion.ca qui veut acheter votre véhicule, peu importe la marque, et on vous offre jusqu'à 1 000 $ de plus que la compétition. 1 000 $ de plus en plein dans le mille. Visitez forceoccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel.
FM 93. Ça me parle. Depuis 40 ans, Pizza Royale vous offre des produits exclusifs, comme son authentique pepperoni. En plus du service de livraison et pour emporter, Pizza Royale vous reçoit avec le sourire au buffet à volonté et brunch du dimanche. Boulevard Hamel et l'Express à Beauport. Pizza
Royale. Concept Piscine Design. Maintenant deux fois plus grand pour deux fois plus de bonheur.
Gâtez-vous et découvrez la chaleur relaxante et les bienfaits d'un spa. Chérie, un spa, c'est le bonheur.
Puis à l'année...
Concept Piscine Design, membre du réseau IPG, un pouvoir d'achat colossal, service et prix imbattable.
Obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur notre vaste choix de spas sélectionnés et découvrez nos spas à partir de seulement 3 699 $.
ConceptPiscineDesign.com, boulevard Pillon Sud, Val-Bélair.
Installateur de bonheur.
Donnez bonne mine à votre pelouse avec l'Ange Vert. À partir de seulement 208 $ pour un an, choisissez le forfait parfait pour vous et votre pelouse sera au petit soin. Estimation sur place ou en ligne. L'Ange Vert vous sert depuis 40 ans. Visitez angevert.com.
Vous désirez du style, du confort et une meilleure protection solaire pour vos yeux? Bonne nouvelle! Jusqu'au 30 juin, c'est l'événement solaire chez Iris. Économisez jusqu'à 175 $ sur votre achat de lunettes solaires avec lentilles de prescription. Ne tardez pas, venez découvrir les dernières nouveautés de lunettes solaires parmi de prestigieuses collections telles que Michael Kors, Adidas, Chloé, Tom Ford, Spy et Ray-Ban. Visitez iris.ca pour plus de détails.
Cet été, agrippez le plaisir à deux mains grâce à SM Sport. Sur toutes les motos Guzzi 2018, profitez d'un taux à partir de 1,99% et d'un rabais de 1 000 $ jusqu'au 31 mai chez SM Sport Boulevard Valcartier.
Pendant les jours adrénaline de Mitsubishi Motors, louez un Eclipse Cross avec groupe Black Edition 2019 pour seulement 174 $ bimensuel à 1,99% pendant 60 mois, incluant les caractéristiques du groupe Black Edition valant 2150 $. Le Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition est offert au prix au détail de 32 942 $ avec 120 paiements, un acompte de 1 395 $ et 1 980 $70 payables à l'entrée en vigueur de la location. Allocation de 16 000 km, 10 cents par kilomètre excédentaire. Des conditions s'appliquent.
Pour un temps limité, Vidéotron vous offre Internet, la télé et Club Illico pour 74 $95 par mois pendant 6 mois. Faites vite, c'est jusqu'au 14 mai seulement. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron.
Rêvez toute une nuit sous les ponts de Paris avec un spectacle grandiose de 2 heures qui rend hommage aux légendes de la chanson française. Un merveilleux voyage dans le temps avec plus de 18 artistes dans un décor grandiose illuminé de méga projections. Sardou, Beko, Fugain, Lama, Aznavour, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Johnny Hallyday, Claude François, Adamo, Alain Barrière et Dalida. Un tourbillon d'émotions du 27 au 29 septembre au Capitole de Québec. Billets sur ovation.qc.ca et au 694-4444.
La Croix-Rouge vient en aide aux personnes touchées par les inondations au Québec. Pour soutenir les opérations en cours et poser un geste solidaire à l'endroit des sinistrés, faites un don au croixrouge.ca. Cogeco Média vous invite à donner généreusement.
On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93, ça me parle.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
FM 93, ça me parle.
8h09. Hier, on a envoyé... En fait, non, c'était avant-hier, en soirée, on a envoyé Alexis, mm-hmm. qui est encore stagiaire à cette époque-là.
Il est encore, en fait.
Oui, c'est ça. On l'a envoyé au congrès des cadres de CPE qui avait lieu au centre des congrès ici à Québec. Ouais. Ça arrive genre une fois par année. Là. Ça rentre dans la catégorie formation continue.
Par année ou 2 ans.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et vous pouvez vous imaginer, ça peut avoir l'air de quoi, un congrès quand ça dure habituellement 2 jours. On arrive à un petit cocktail de bienvenue. Il y a des conférences à gauche puis à droite.
Eux, c'était 3 jours en plus.
3 jours.
Jeudi, vendredi, samedi.
Bon, ben écoute, quand même. Puis on se rappelle que dans les années passées, ces congrès-là avaient été très, très controversés parce qu'il y avait des conférences qui portaient pas nécessairement sur le bien-être de l'enfant. On parlait de rigologie, mm-hmm. apprendre à rire. Mais là, c'est des cadres pour les CPE, je vous rappelle. Ce sont pas les éducatrices, là. C'est mm-hmm. des cadres. Alors, il y avait des cas. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait sorti là-dedans. Il y avait de la rigologie. Il y avait un paquet d'affaires qui étaient complètement inutiles puis ça avait pas rapport du tout. Alors, Alexis, t'es allé faire un tour. Mercredi soir pour le cocktail de bienvenue, en fait.
Ouais, c'est moi qui s'est trompé. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi.
Mercredi, il me semblait, c'est ça. Ouais. Et donc, tu t'es pointé là, puis on en a parlé après ça le lendemain. Puis la réaction, disons que ça a été assez unanime. Les gens n'étaient pas très, très contents qu'on puisse que les éducatrices se payent un beau petit
deux, pas les éducatrices, les cadres.
Que les cadres, excuse-moi.
Les éducatrices, ils ont que dalle, eux autres. Là.
Non, c'est ça. En fait, c'est ça. La formation continue ou ce type d'événement-là, c'est pas pour les éducatrices souvent. C'est pour les cadres qui gagnent de très, très gros salaires et qui sont pas sur la première ligne d'intervention avec les enfants.
Ça profite pas aux enfants, 2 secondes.
Exact, c'est ça.
Fait que
c'est
la formation vraiment... LinkedIn, non?
Oui, la formation
ça
LinkedIn,
pas,
il y avait là-dedans.
Il me semble.
Et il y a eu quelques réactions là-dedans, dont celle d'une éducatrice en particulier qui a tenu à te parler, Jean-Simon. Oui. Je pense qu'elle n'était pas très, très contente de savoir ça.
Pas du tout. Puis évidemment, elle a commencé par quoi? Il faut absolument pas qu'on me retrace parce qu'elle craint pour son emploi. C'est fascinant.
Encore ça, c'est incroyable.
On dirait, des fois, on dirait qu'on vit dans un drôle d'État, une drôle de démocratie où est-ce que les gens dans le système public, donc qui sont des employés de l'État, craignent de perdre leur travail lorsqu'ils sonnent l'alerte. Mais bref, on va l'appeler Manon. J'ai modifié sa voix, donc elle va sonner comme un personnage d'enquête.
Ouais.
Je veux dire, j'ai pas eu le choix pour protéger son anonymat. C'est une éducatrice depuis plusieurs années. Alors d'abord, je lui ai demandé comment vous réagissez quand vous apprenez que les cadres de CPE se farcissent des cocktails à 3 000 $ et des conférences sur LinkedIn au centre des congrès.
C'est vraiment révoltant parce que nous, on sait quel montant d'argent est dépensé dans ce genre de congrès-là, puis à quel point les cadres ont leur salaire qui sont augmentés à chaque année, tandis que nous, dans le fond, on ne demande pas nécessairement d'avoir une augmentation de salaire. Ce qu'on demande, c'est d'avoir du support dans nos groupes. Une éducatrice spécialisée parfois où les ratios ont été augmentés récemment, des fois, ou des... En tout cas, je ne veux pas dire les ratios, mais on a... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus l'aide qu'on avait avant. On a le même nombre d'enfants. Fait que ça, pour nous, dans le fond, les charges sont plus grandes. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'argent qui est dépensé là où ça pourrait servir ailleurs.
Mais non, c'est certain. Puis elle parlait des ratios là, en passant. Uh-huh. Là, une des raisons, quand je parle aux parents autour de moi, là, une des raisons pourquoi il y en a certains qui vont aller en garderie privée versus CPS, c'est à cause du ratio. Parce que très souvent, pas partout, je le sais, mais très souvent dans les garderies privées, le ratio va être beaucoup plus petit pour une seule éducatrice que dans les CPE. Alors, ça fait en sorte que ton enfant obtient plus d'attention de la part de l'éducatrice que ce serait le cas en CPE.
Et maintenant, le souligner aussi, Elisabeth, c'est aussi le fait que tu sais, les jeunes en CPE, il y en a qui ont, ça va bien, mais il y en a qui ont déjà des difficultés.
Oui,
des fois, on dépiste déjà des difficultés d'apprentissage. Alors, on avait la possibilité avant d'avoir davantage de spécialistes, des orthophonistes, des psychologues, des travailleurs spécialisés, des éducateurs spécialisés. Oui. Ben, là, ils n'ont pas ces ressources-là. Et à la place, il y a des formations, des longs congrès pour les cadres de CPE. Et j'ai abordé un autre aspect avec Manon parce qu'il y avait une de mes sources hier qui m'avait souligné que dans les CA, les conseils d'administration de CPE, c'était un peu particulier comment ça fonctionnait. J'ai demandé à Manon qui siège sur les conseils d'administration des CPE au Québec.
En temps normal, c'est n'importe quel parent enfin, qui serait élu, mais généralement, les parents qui sont sélectionnés, c'est les parents qui ont été invités à la base, puis souvent, c'est les parents qui sont invités par la direction, donc c'est des parents qui s'entendent avec la direction générale. Donc, voilà. Là, dans le fond, la directrice générale peut être invitée puis participe à la plupart des réunions. Dans certains cas, des éducatrices. Il peut y avoir une éducatrice qui va participer à des réunions, mais qui n'a pas le droit de vote. Mais c'est très rare. Il faut qu'ils l'aient obtenu, dans le fond, dans leur convention collective.
Alors, je vous résume ça un petit peu. Alors, grosso modo, moi, je suis un papa, j'ai un poupon dans un CPE, puis je suis copain comme cochon avec la directrice générale. Alors, j'ai dit, ben, j'aimerais bien ça siéger au CA. Ben oui, mais attends, mon grand, on va te donner une place. Et ainsi de suite, tous les parents qui aiment bien la directrice siègent là. Ben, à part de ça, elle s'est d'assurer l'indépendance du conseil d'administration. La directrice a un siège bien confortable aux réunions du conseil. Et les éducatrices sont pas là ou n'ont pas le droit de vote. Alors, vous comprenez après quand ma source me dit que systématiquement, à chaque année, quand on vote, comme une lettre pour noter le travail des DG, ben c'est systématiquement un A. Et c'est aussi systématiquement une hausse de salaire de 3 à 5 % avec un conseil d'administration comme ça. On est grillé. Hein?
Mais qui est mieux placé pour évaluer quelqu'un, pour évaluer un patron, mettons? Là. Mettons que tu as à faire l'évaluation du patron sur le terrain. Qui est le mieux placé pour le faire?
Ben, je pense qu'on devrait le faire avec notre boss, là, t'sais, s'asseoir en gang.
Ça pourrait être bon.
On devrait faire ça, donner de A à E. Puis
non,
après
mais c'est
ça,
surtout pas. Ouais. C'est soit les employés, soit personne. Ouais. Si tu fais une évaluation du patron, ça peut pas être un conseil d'administration qui le voit pas travailler au quotidien.
Non, mais les parents. Faire, non, mais je vais mettre un bémol. Je pense qu'il y a un certain sens à ce que des parents, pas les parents copains comme cochons avec la DG, mais des parents qui constatent ce qui se passe aient une place. Mais il pourrait y avoir un panel, par exemple, composé à moitié de parents et à moitié d'éducatrices, avec chacun un droit de vote. Donc, tu aurais les parents qui voteraient par rapport à leur satisfaction aux services qui sont donnés au CPE et les éducatrices sur le terrain qui voteraient sur les ressources, comment elles sont allouées.
Sauf que si les parents votent sur le service qu'ils reçoivent au CPE puis ils sont contents, ils reçoivent un bon service, on s'entend-tu que c'est en grande partie à cause des éducatrices?
C'est un point.
On s'entend-tu que s'ils sont contents du service qu'ils reçoivent puis que leur enfant est heureux, c'est en grande partie parce que l'éducatrice fait un bon travail? Comment ça se fait que c'est la directrice, après ça, qui va recevoir la grosse augmentation de salaire?
Ouais, moi, j'ai un neveu qui a 3 enfants puis je l'ai jamais entendu dire « Hey, la directrice ou le
supérieur... » Oh, quel fun! Quel,
oui,
c'est incroyable!
Est efficace.
Un vrai rayon soleil.
J'ai une question d'ailleurs aux parents. Là, écrivez-nous au 25-2-2-6. Si votre enfant est en CPE présentement, répondez à la question suivante. À quelle fréquence vous avez une conversation ou une intervention avec la directrice du CPE? Alors, est-ce que vous y avez déjà parlé, premièrement? Que la connaissez-vous par son nom? Et à quelle fréquence vous avez des contacts avec la directrice de la CPE si vous êtes un parent? Je sais que vous parlez souvent à l'éducatrice ou l'éducateur et c'est normal, mais la directrice du CPE, à quel moment vous êtes en contact avec elle? 25-2-2-6.
Les parents qui sont sur le CA, ils vont dire « Oui, moi, je la connais.
CA, là,
on soupe ensemble le vendredi. Moi, je la connais. »
Oui, évidemment, là, si vous êtes
je
sur le CA.
Je connais Brigitte, moi.
Si vous l'avez, mais dans le cadre d'un client qui reçoit un service par année, là, comme parent, je pense que vous êtes client du CPE. Et puis, donc, par rapport au service que vous obtenez, là, si vous êtes sur le CA et vous avez des contacts avec elle pour d'autres raisons. Là. Alors, 25-2-2-6, quelqu'un nous écrit « Il y a une directrice. » Ça veut dire beaucoup, ça, quand même. Alors, parents, à quelle fréquence vous voyez ou vous parlez à la directrice du CPE où votre enfant va?
Moi, je vais au bingo la fin de semaine avec.
Quelqu'un nous écrit une fois max par année. Une fois max par année.
Ben, il l'a vu.
Ben, une fois par année, on s'entend-tu que ça, c'est spécial?
Il l'avait jamais vu.
C'est parce que le point que je veux illustrer là-dedans, c'est que tu peux... s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il évalue, la directrice, pour qu'elle ait une augmentation de salaire, si elle a une augmentation de salaire, c'est parce qu'elle fait un bon travail. Si un parent est satisfait du service qu'il reçoit en CPE, il y a une partie qui est due à la directrice, je sais, là, il y a une bonne administration du CPE qui est faite, mais on s'entend-tu qu'en grande majorité, si vous êtes satisfait du CPE où va votre enfant, c'est parce que l'éducatrice ou l'éducateur est bon. Là.
Normalement, c'est lié.
Il y a quelqu'un qui texte « Jamais ».
Alors, 25226, à quelle fréquence vous parlez à la directeur ou, au directeur ou à la directrice du CPE où votre enfant va? Il est 8h17.
Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. C'est Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête.
Ah, juste avant de changer de sujet, il y a quelques réactions qui commencent à entrer. Quelqu'un nous dit c'est une fois par semaine. Je réalise qu'il y a peut-être des directrices qui sont plus présentes que d'autres auprès des parents. Parce que tu vois, on a une fois par année, on n'a jamais, mais on a aussi une fois par semaine. Quelqu'un nous dit tous les matins, son bureau est à l'accueil, elle répond au téléphone quand on appelle. Ça, bureau à l'accueil, j'aime ça. Ça veut dire que vous pouvez saluer les parents lorsqu'ils entrent dans le CPE. Ensuite, nous dit, la directrice n'est pas dans le bureau tout le temps. Elle aide les éducatrices et ils se fondent dans le portrait. Alors, elle est au moins présente. Elle est peut-être pas en avant-plan, mais elle est là. Ensuite, quelqu'un nous dit, à l'époque où mes trois enfants fréquentaient la garderie, c'était à toutes les semaines. OK, quand même. Quelqu'un nous dit, jamais. Je suis d'ailleurs directrice de garderie et je fais la même job. Je fais la même job, hein? OK, elles sont deux à temps plein, plus une conseillère pédagogique. Alors, OK, je comprends. Dans le fond, elle est directrice de garderie, puis elle fait à elle seule ce que deux postes à temps plein, plus une conseillère pédagogique vont faire. Alors, c'est quand même spécial.
C'est comme n'importe quoi, Élie, tu sais, dans n'importe quel poste, t'as des bonnes pommes puis des pommes pourrites. Puis les pommes pourrites, tu les vois jamais. Puis les bonnes pommes, tu les vois. Puis je suis sûr qu'il y en a des bons cadres. Là. C'est, si le chapeau ne fait pas, mettez-le pas. Mais ce qu'on vise, c'est les cadres déconnectés qui, justement, prennent plaisir à aller au congrès plutôt qu'à d'allouer des ressources pour leurs éducatrices sur le terrain.
Quelqu'un nous dit le choix des éducatrices est dû à une bonne direction. C'est sûr, c'est elles qui vont finalement embaucher les employés qui vont devenir
sur
les
LinkedIn,
éducatrices pour, vos enfants.
Grâce à la formation.
Non, mais il y en a des bonnes. Là. Sérieusement, je suis... Puis tu vois, quelqu'un nous dit, elle est là à tous les matins, elle salue les parents qui entrent. Ça, c'est génial. Là. Puis je pense pas que c'est parce que tu es patron dans une boîte que ça veut dire qu'il faut que tu sois déconnecté des gens qui vont payer pour avoir un service chez vous. Au contraire. Quelqu'un nous dit quelques fois par semaine, on passe devant son bureau à chaque jour. Elle répond au téléphone et elle aide les éducatrices. Ensuite, quelqu'un nous dit elle connaît tous les noms des enfants. Hey, ça, c'est le fun. Vraiment, là, ça, c'est bravo à cette directrice-là. Mais t'as aussi jamais, je l'ai jamais vu, t'as une fois par année.
Ben, c'est ça, t'as vraiment
normal,
les deux. Là.
Ça fonctionne pas.
Ben non, puis...
moi, je l'ai vu au festival d'été l'an passé.
Ben oui, c'est ça. Ça marche pas du tout.
Je l'ai croisé à s'en aller au congrès.
Ensuite, quelqu'un nous dit j'ai deux enfants qui fréquentent un CPE. Elle connaît les enfants personnellement et elle s'implique beaucoup. Génial.
Ça, c'est le fun. Ça.
Génial. Puis, c'est-tu quoi, cette directrice-là, elle mérite sa cote de A, son augmentation de salaire, si elle est autant sur le terrain et elle connaît autant les parents et les enfants. Là, on va changer de sujet pour vrai. Mais on va continuer à vous lire 25226, mais je veux revenir sur le passage d'un personnage qu'on connaît très bien à Québec hier. C'est Pierre-Carl Péladeau. Pierre-Carl Péladeau, il était présent au Collège François de Laval en marge d'une conférence de presse. Il annonçait en fait un très gros don qu'il allait faire au Collège François de Laval. Je pense que Québécois a donné 350 000 $ et ils annonçaient qu'ils avaient réussi à amasser 4,2 millions de $ en tout pour leur source de financement. Il y avait un objectif, le Collège François de Laval, de 3,5 millions de $. Ils ont finalement dépassé largement cet objectif-là. Et Pierre-Carl Péladeau était présent en tant que grand donateur. Et bien sûr, on a parlé, les journalistes lui ont posé des questions sur le conflit qu'il y a eu entre TVA Sports et Bell récemment. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici à Québec dans ce conflit-là? Ben c'est, est-ce que l'attitude de Pierre-Carl Péladeau aurait pu avoir une influence sur les hauts dirigeants de la Ligue nationale de hockey dans l'éventuel octroi d'une nouvelle franchise qui pourrait arriver à Québec? Nous, ce qu'on a dit ici en ondes, Yves était d'accord, je pense que tout le monde était d'accord, d'être, disons, hostile comme ça à l'endroit de Bell, qui est très, très, très impliqué au sein de la Ligue nationale présentement. Son propriétaire d'une
copropriétaire canadien, et des Leafs de l'édifice, aussi. Les Leafs aussi.
Aussi. Puis,
ils sont diffuseurs aussi.
Ils sont diffuseurs également. Donc, est-ce que cette attitude-là envers Bell aurait pu, disons, refroidir les hauts dirigeants de la Ligue nationale dans l'éventuelle décision de donner une équipe de hockey à Québec, à Pierre-Carl Péladeau, ou non? Ensuite, la première question qu'on lui a posé, s'il y a-t-il quelque chose de nouveau dans le dossier des Nordiques?
Écoutez, malheureusement, il n'y a pas de nouvelles. Malheureusement, encore une fois, je persiste à dire que le dossier de Québec, donc tous les éléments qui le composent, c'est-à-dire l'amphithéâtre, c'est-à-dire la ville de Québec, c'est-à-dire le commanditaire, l'organisation qui est derrière, c'est-à-dire Québécois, avec ses télévisions, sa capacité de faire la promotion. Donc, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour réussir. Alors, nous allons poursuivre nos efforts. Nous allons faire en sorte de tenter toujours et avant tout de convaincre donc, les dirigeants de la Ligue. Mais à cet égard, évidemment, nous ne sommes pas maîtres du chronomètre ou de l'horloge.
Ça, c'est sûr que c'est pas eux qui vont décider à quel moment ça va arriver. Là, tout ce qu'on peut, c'est offrir le meilleur environnement possible, disons, pour que la décision se prenne. Ensuite, on lui a demandé, est-ce que vous avez toujours la tête à ramener les Nordiques? Parce qu'on en parle un petit peu moins, hein. Puis c'est normal aussi, c'est parce qu'il se passe rien. Fait que quand il se passe rien, on n'en parle pas, là. Mais est-ce que on lui a posé comme question, est-ce que vous avez saisi toutes les opportunités pour ramener les Nordiques à Québec? Est-ce que ça vous tente encore, finalement?
Les gens de Québec sont inquiets. On vous a vu faire de la politique, acheter une compagnie de taxi dans les derniers jours. Est-ce que vous avez encore la tête à 100% à ramener un club de hockey?
Tout à fait.
Est-ce que vous avez saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à vous pour le faire?
Toujours. Et puis, je discute avec des partenaires de la Ligue et je vais continuer à le faire.
C'est sûr que... Mais parce que discuter, c'est pas ça qui va faire changer les choses.
Ça dépend de quoi ils discutent.
Exact, c'est ça. Mais je comprends les gens...
Est-ce qu'ils discutent du signal de Vidéotron ou de TVA Sport?
Mais je comprends les gens de vouloir que ça reste dans l'actualité. Puis je comprends les gens de vouloir qu'ils continuent à en parler, mais il faut comprendre qu'il y a bien beau les appeler à tous les jours pour dire « Hey, je veux encore une équipe », ça changera rien.
S'il n'y a pas d'expansion dans l'air et... Il n'a pas.
Mais non, c'est ça. Puis au contraire, d'être trop fatigant, je suis pas sûr que ça va être une bonne idée non plus. Là. Non. S'il fallait qu'il continue puis qu'il harcèle, puis on veut les Nordiques, pas sûr que ça va être. Ah, ben finalement, écoutez, devant votre persistance, on va en donner. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est ça. C'est pas une question de mérite des gens de la ville de Québec non plus. On le sait qu'on mérite les Nordiques, on le sait qu'on est des fans, on le sait tout ça. Oui. Mais la Ligue va pas considérer ça dans sa décision. Là. Et finalement, parlons du conflit. Moi, je pensais à l'époque, et je le pense toujours, que ce qui s'est passé avec TVA Sports, qui a retiré le signal, en fait, de TVA Sports sur ceux qui étaient abonnés de Bell, ça a duré moins de 24 heures, vous allez me dire, mais ça a quand même eu lieu. Moi, je pense que cette décision-là de Pierre-Carl Péladeau, ça n'a pas été une bonne chose dans l'idée d'obtenir les Nordiques un jour. Parce que Bell est un partenaire très, très important de la Ligue nationale. Et aussi parce qu'encore une fois, ça montre que Pierre-Carl Péladeau est beaucoup dans l'actualité pour des controverses. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec TVA Sports? Selon vous, est-ce que ça a terni votre image auprès de la Ligue nationale de hockey?
Ce qui s'est passé avec TVA Sports, le fait de retirer le signal, ça ne ternit pas votre image auprès de la Ligue nationale?
Non, j'ai entendu dire, effectivement, que pour certains, ça pouvait avoir cette conséquence. Vous savez, le commissaire était très informé de cette situation. Et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Hein. Faut savoir que les distributeurs et les diffuseurs, lorsqu'ils ne s'entendent pas, ils ont le droit de le faire. Et bien honnêtement, j'ai tendance à penser que c'est comme ça que ça va fonctionner dans l'avenir.
Vous avez abusé le commissaire?
Oui, tout à fait. Donc, on a des relations très étroites avec le commissaire, avec l'équipe de direction de la Ligue nationale, évidemment, parce que nous sommes un partenaire comme diffuseur. Donc, on continue à être en étroite relation.
Qu'est-ce qui va arriver en premier, d'après toi, à PKP, Élie? Les Nordiques ou un pays?
Je sais pas. Les deux, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être en voie de se développer. Mais je pense que ce qui a nui un petit peu à Pierre-Carl Péladeau dans ce dossier-là, puis là, je vais me tourner vers Vez. Vez, les propriétaires d'équipes de hockey présentement dans la Ligue nationale de hockey, es-tu d'accord avec moi pour dire qu'on les entend pas beaucoup et on les voit pas beaucoup? C'est des gens qui sont, somme toute, assez discrets.
Oui.
Et je pense que ça se peut-tu que ce soit quelque chose que la Ligue aime, que des propriétaires soient là, ils sont présents, sont impliqués dans leur équipe, mais dans les médias, ils font pas trop de vagues, par exemple. Ils font pas mal paraître la Ligue, ils font leurs petites affaires, tout est correct.
Il faut pas qu'ils fassent mal paraître la Ligue. C'est la dernière chose que la Ligue veut, ça c'est clair.
Si vous allez voir le Twitter de Pierre-Carl Péladeau, à tous les jours, il y a une nouvelle cible où il peut pitcher, où il peut le gratter, là. Puis il va continuer de le faire. Il va planter Radio-Canada, il va planter Bell, il va planter RDS, il va planter le gouvernement. Il va planter Capital Média. Là, je ne vous parle pas de toutes les poursuites judiciaires qui sont enclenchées non plus. Il était devant le CRTC pour Bell. Il est en cours pour une histoire d'héritage avec sa sœur. Il est en cours également avec l'ex-conjoint de son ex-conjointe à lui qui s'est malheureusement suicidé. Il y a à gauche et à droite, on dirait qu'il y a des conflits tout le temps. Puis il y en a un nouveau qui pousse à tous les jours. Puis ça, il met le feu un petit peu partout.
Un par-dessus l'autre, là, ça fait une petite pile. Puis je pense que cette pile-là, ça peut ne pas plaire à la Ligue.
Je pense que Pierre-Carl Péladeau se fait voir pour les mauvaises raisons. saison présentement et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va plaire à la Ligue. Au contraire, quand tu regardes les propriétaires présentement, c'est des gens qui sont discrets. C'est des gens qu'on n'entend pas ou que vous... Dans le milieu des affaires, ils doivent se faire voir une fois de temps en temps, mais dans le milieu, disons, le simple citoyen, moi, j'en entends pas parler de ces propriétaires-là. Il y a une raison à ça.
La plupart des cons, on sait même pas c'est qui.
Exactement. Alors, s'il y a une chose qui peut nuire à Pierre-Carl Bilodeau, moi, je pense que c'est ce petit côté-là. Ce petit côté-là de lui qui est très bagarreur, ça peut être très bon là, dans d'autres circonstances. Oui. Je pense qu'en affaires, c'est quelqu'un qui est assez redoutable.
Je peux rajouter une vieille histoire aussi que moi, j'ai toujours retenue. Quand le Canadien était en vente et que... quand c'est George Gillette qui était propriétaire puis il a mis le Canadien en vente, Pierre-Carl Pelado était sur les rangs.
OK.
Avec Jeff Molson, puis je sais pas s'il y en avait d'autres. Peu importe. Et durant l'été, le Canadien a procédé à un changement d'entraîneur-chef. Il a pas choisi, il avait congédié le coach d'avant.
Oui.
Puis lorsqu'on a nommé, je pense que c'était Jacques Martin, Pierre-Carl Pelado s'est levé dans les médias, puis il a dit « Hey, c'est pas mon choix à moi. » Il aurait pu me le demander d'un coup que j'achète le Canadien.
T'es sérieux?
C'est parce que t'es pas encore propriétaire.
Et tu sais,
puis ça prend un coach. Oh oui.
Aïe, OK. Mm-hmm. Fait que non, c'est, disons que tout ça additionné, c'est peut-être pas la meilleure chose en ce moment. Alors, voilà, donc Pierre-Carl Pelado, il croit toujours, il pense qu'il n'a pas nuit du tout au retour des Nordiques à Québec. Il était de passage hier au Collège François de Laval, en marge d'une conférence de presse pour annoncer un gros don que Québécois a fait. Quand même, c'est 350 000 $.
Bravo
là, je pense
pour
que
ça.
C'est pas rien. Puis bravo, effectivement. Je me demande pourquoi il a choisi le Collège François de Laval, par exemple. J'essaie de trouver ça comme information. C'est quoi son lien avec ce collège-là, précisément? Puis c'est bien correct, là, mais souvent, il va avoir un attachement là, précis envers les organismes auxquels on va faire des dons. Puis, je le sais pas, je serais curieuse de savoir comment ça se fait qu'il a choisi ce collège-là en particulier.
On demandait à M. Google.
Oui, effectivement. Alors,
j'allais regarder dans le soleil, mais je pense que je vais plus regarder dans le Journal de Québec.
Effectivement. Non, il y a un article quand même. Ils ont fait un article, le soleil?
Je pense
que oui, quand même. Peut-être un article sur le web, là, mais je suis pas certaine. Il est 8h28.
Ségal, le midi. Lundi au vendredi, dès 11h, au FM 93.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2018. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
C'est dans deux jours exactement, dimanche le 5 mai, c'est le coup d'envoi du demi-marathon de Lévis, de la saison de course en fait. Alors, Je cours Québec. Québec offre une programmation complète pour les amateurs de course à pied. Le premier événement, c'est ce dimanche avec le demi-marathon de Lévis. Plus de 4500 participants quand même. Et c'est encore le temps de vous inscrire au 10 km Sport Expert. Pourquoi cette course-là en particulier? Parce qu'on va être là, Jean-Simon et moi. On va le courir ensemble, le 10 km. C'est sur le bord du fleuve. Ça fait vue sur Québec. C'est une distance qui est accessible. Ça démarre bien la saison. Et en plus, il annonce très, très beau soleil, 12-13 degrés, même 14, je pense, pour dimanche. Alors, ça va vraiment être agréable. Vous avez un minimum d'expérience en course à pied puis vous voulez lancer votre saison, bien, venez courir avec nous. Ça nous tente de courir avec vous. Ça va être le fun. On va vous jaser. On va pouvoir vous rencontrer. Et si vous êtes une famille, bien, vous n'êtes pas obligé de faire le 10 km. Venez faire le 2 km, la course des jeunes Mégaparc. C'est un événement qui est vraiment bienvenu aux familles. Si vous êtes un groupe aussi, vous pouvez vous inscrire. Alors, on se voit à la ligne d'arrivée du demi-marathon de Lévis. C'est dimanche le 5 mai. Une invitation du FM 93.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement les Midigo à partir de 13,75 $. Incluant le plat principal, une soupe ou un dessert en portion modérée et une boisson au choix.
Quand t'es le premier sur le chantier le matin ou le dernier à sortir ton VTT du sentier, quand ça te prend un camion puis que tu veux te faire conseiller par un champion, ton pick-up, tu le prends chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Les camions, ils connaissent ça. Durant la grande vente Fièrement Camion, louez le tout nouveau Silverado Custom Trail Boss à partir de 99 $ par semaine, 24 mois avec léger comptant. Viens nous défier pour voir. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond. Ouvert le samedi.
Faites le tour du monde. Dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique, Ludovica, le monde miniature. Voyez plus de 3000 bâtiments en briques. Québec, New York, Disneyland, Dubaï. Ludovica Miniland, place Fleur-de-Lys, entrée 1. Visitez ludovica.ca.
Doyons des prix à demander à Philippe comment il se sentait après l'achat de son barbecue.
Je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'accomplis des merveilles, des chefs-d'œuvre, des miracles.
Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas.
Envie de réussir vos cuissons comme un pro?
Pour un temps limité chez Doyon Després, procurez-vous un barbecue au gaz Weber sélectionné et obtenez le fameux thermomètre intelligent iGrill 2. Avec ça, impossible de se tromper. Doyon Després, rue du Marais et doyondespres.com.
Je regardais le feu de camp, j'ai entendu un bruit d'animal pas loin. Je me retourne et là...
Ça, c'est juste 15 % de l'histoire. Parce que jusqu'à dimanche, Sale vous offre un minimum 15 % de rabais sur presque tout. Toute bonne histoire commence chez Sale. Tous les détails à sale.ca.
Vous aimeriez avoir un spa, mais pas gérer les bactéries, le chlore, le pH, les désinfectants. Nous avons la solution chez Club Spa. Les Arctic Spa munis du fameux système Spa Boy. Terminez le tracas de l'entretien de l'eau, c'est Spa Boy qui s'en occupe automatiquement. Voilà pourquoi autant de gens achètent un Arctic Spa. Profitez-en parce que pour un temps limité, sur les Arctic Spa sélectionnés, c'est Club Spa qui paye les taxes. Le système Spa Boy, unique à Arctic Spa, disponible chez Club Spa à Beauport et l'ancienne Lorette.
Guérir du surendettement, ça a été bon pour mon anxiété. Fini le gros stress. Je respire mieux.
Découvrez l'effet Raymond Chabot. Prenez rendez-vous en ligne ou faites le 1-855-R-CHABOT. Raymond Chabot, conseiller en redressement financier. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Conduire n'a jamais été si inspirant que lors du grand événement Mazda. Tout au long du mois de mai, vos concessionnaires Mazda vous réservent des offres exclusives. C'est le moment tout indiqué pour venir essayer nos véhicules récompensés. Surtout lorsque certains modèles vous sont offerts à 0 % au financement à l'achat avec un crédit de bienvenue allant jusqu'à 1 000 $, plus notre garantie à kilométrage illimité. Recevez tous les détails en primeur en vous inscrivant sur laventemazda.ca. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Pour son dernier concert pop de la saison, l'Orchestre symphonique de Québec vous offre un voyage orchestral des plus somptueux avec Catherine Major.
Fais-moi tout bout à bout, oublie et regarde à vous.
Pour quelques chansons, elle partagera la scène avec une artiste à l'énergie contagieuse, Ariane Moffat, et avec le pianiste coloré Antoine Gratton. Les jeudis et vendredis 23 et 24 mai prochains au Grand Théâtre de Québec. Une présentation des coups de poudre Hydro-Québec.
FM 93, promo, concours. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Le FM 93 et Adel Plus s'occupent de votre ménage. Inscrivez-vous sur fm93.com. Quatre chanceux vont remporter 3 mois d'entretien ménager et parmi eux, il y a un grand gagnant pour qui le 3 mois va se transformer en 1 an de congé de ménage par Adel Plus.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner.